Chris, je veux te présenter donc justement qui est la personne que nous recevons aujourd'hui, puisque, oh là, j'ai plus l'habitude des lancements, ça m'apprendra. Nous avons déjà reçu notre invité lors de la dernière édition du Startup Weekend, et c'était vraiment un bonheur d'avoir enregistré justement pendant le Startup Weekend. Mais en tant que témoin et acteur privilégié de la scène startup sur l'agglomération toulousaine, il nous semblait évident d'en reparler avec lui. Nous recevons donc à nouveau Julien Del Rio, consultant innovation et mobilité pour One Light Studio, cofondateur de Loader App Startup pour Community Manager, co-organisateur des Startup Weekends sur Toulouse et porteur d'un béret communicant que là il a laissé de côté puisque le Bluetooth ça bouffe quand même les batteries.
CPU carré petit utile.
Bangour, du coup.
tu vois, moi, je viens de la Tessie, tu vois. Moi, je viens de la rue Croix-Baragnon, banlieue beaucoup trop défavorisée parce que les prix sont vraiment trop chers, tu vois. Alors moi, j'ai ramené mon correspondant américain, Chris O'Brien, aussi dit cri-cri d'iPad. On a des idées, elles sont trop géniales et révolutionnaires. Et il faut qu'on monte une start-up, alors on est venu te voir. Est-ce que c'est possible de monter une start-up?
Mais carrément, sacré ascenseur social, la start-up. Donc, c'est le lieu parfait.
Ouais, pour monter une start-up, qu'est-ce qu'il faut?
De la motivation. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de motivation.
Alors, la motivation, ils en filent comment?
Ça se deal. Il y a des lieux où ils t'en deal, et il faut connaître les bons dealers.
On a une idée. Une idée, ça se conçoit. En général, les gens qui créent sont aussi un petit peu des makers. Il y en a d'autres qui sont purement des commerciaux et qui essaient de recruter aussi des développeurs pour les aider. Alors, où peut-on recruter des développeurs expérimentés, talentueux, dans une technologie précise?
D'accord, on commence par la question la plus compliquée.
Mais on a le temps.
J'apprécie.
On a le temps, on a 40 minutes.
Je croyais que c'est à la fin.
Ah bah très bien.
Je croyais que il n'y a pas que ça en plus.
Non mais pas de souci. Alors c'est le gros sujet et malheureusement je pense qu'il n'y a pas grand monde dans le monde qui a trouvé la réponse. À Toulouse c'est particulier. On a effectivement les startups, ça vient beaucoup du numérique. C'est plus facile de faire de l'innovation dans le numérique parce que ça coûte moins cher. Tu as besoin d'un ordinateur, tu commences à coder, tu peux même faire héberger ton site internet à peu près gratos sur plein de supports. Donc c'est le bon moyen de développer, sauf que même si ça commence à avoir des cours d'informatique et de codage dès le collège, je crois.
On dit bien codage.
Ouais, moi j'aime bien dire codage. C'est rigolo.
Et donc, on recrute des programmateurs?
Des codeurs?
Non, fais gaffe, parce que je suis programmeur dans le CV, mais je suis programmateur à la radio. Hein.
Ah,
mais je suis pas programmateur codeur. De lave-linge.
Codeur? Parce que c'est... on fait du codage et pas du programmage.
Bon, la blague est nulle, parce qu'il y en a un qui est lost in translation de l'autre côté de la table.
c'est le scepticisme... Américain.
Et c'était toujours le même ou quelque chose a changé récemment pour élever le nombre de startups ici ou la scène ici?
Spécifiquement à Toulouse, je pense que ça joue comme un peu partout dans le monde, mais comme je disais, l'intérêt de faire ces startups dans le numérique pour Toulouse, c'est que Toulouse, grâce à un super avionneur, a un gros bassin informatique. Je crois qu'on est troisième bassin ou quatrième d'informatique en France. Et donc forcément, on a plus de gens qui sont armés pour faire du développement. Mais à contrario, donc ça a créé beaucoup d'envie. Mais à contrario, le problème, c'est qu'on a des développeurs qui sont formatés à plein d'autres choses à l'opposé de l'entrepreneuriat. Et ça pose des problèmes par rapport à la première question, pour justement trouver le bon profil à Toulouse.
Alors moi, ce qui m'a impressionné quand j'ai regardé justement quels étaient les bassins d'emploi vis-à-vis du développement logiciel dans le numérique, je me suis rendu compte qu'en fait, chaque ville avait plus ou moins sa spécialité. Il y a beaucoup de demandes sur JavaScript à Paris, il y a beaucoup de développeurs disponibles, même en PHP sur Lyon, qui sont expérimentés. Et en fait, principalement, on trouve beaucoup de développeurs à Toulouse autour de la technologie Java. Et Java, c'est vrai, Airbus. C'est dans Android, mais avant ça, c'est ça qui est surprenant, c'est que c'est arrivé assez tardivement, en fait, dans l'avionique et tout ça.
Ouais, mais c'est pareil, c'est les, des besoins qui sont concentrés dans les centres de compétences et les plateaux de développement pour, par les sous-traitants d'Airbus. Donc forcément, ben, les formations qui sont derrière forment beaucoup de développeurs Java. C'est le cercle de la vie du développeur Java qui a derrière. Et effectivement, des parents développeurs font des petits-enfants développeurs Java et les formations en font beaucoup.
Oui, well, c'est une chose pour parler de la compétence des développeurs, mais c'est une autre chose pour considérer l'esprit de faire une start-up.
Exactement, c'est ce que je disais. Le problème, c'est que c'est des gens qui ont pas forcément, qui sont très formés, école d'ingénieurs, on a des beaux IUP, des belles licences pro à Toulouse, sauf que c'est des gens qui sont formés pour très bien exécuter des tâches de développement, concevoir des produits à partir de cahiers des charges. À Toulouse, on a cette difficulté de trouver des développeurs qui ont un esprit entrepreneurial, dans le sens aller au-delà de sa mission, ne pas juste réfléchir à la bonne ligne de code, mais à la ligne de code intelligente par rapport à la construction de la start-up. Et c'est ces profils-là qui sont très difficiles à trouver. Quand dans les milliards de casquettes que tu as pu me donner au début, j'anime une association de développeurs.
On va le dire, hein, c'est l'Android User Group de Toulouse. Donc c'est vrai que c'est une techno qui est Java, c'est une techno aussi qui est proche de Google et de la mobilité.
C'est ça. Et on a monté là avec pas mal d'autres communautés de développeurs, autant du AngularJS, du JavaScript, donc le JUG, le Java User Group, une conférence en novembre là, d'une journée pour les développeurs. Et forcément, on a cherché des sponsors et on a eu beaucoup de demandes de start-up parce que c'était la seule occasion. Enfin, c'est à part les meet-up en fin de journée qu'on peut trouver un peu partout dans Toulouse, et il y en a vraiment beaucoup.
C'est très impressionnant. Depuis 5 ans, c'est vraiment une explosion. Au départ, ça a commencé timidement avec les blogs sur Garonne qui n'étaient pas franchement en rapport. Et maintenant, il y a tout. Il y a les meet-up WordPress, il y a des spécialisés autour de Node.js. De ce côté-là, c'est extrêmement impressionnant la manière dont c'est foisonnant.
Pour la petite anecdote, on a lancé un Slack pour discuter entre communautés.
Alors, Slack.
Donc Slack, c'est une plateforme de chat qui vient d'une start-up américaine, justement. On est encore dans les start-up.
Désolé.
Il y en a qui arrivent de.
Il y a beaucoup de copycat en France.
Et donc chacun peut avoir en gros son ensemble, son sous-Slack dédié. Donc on en a lancé un à Toulouse pour les communautés au sens large. Et essentiellement, ça a été lancé par des développeurs. Donc il y a beaucoup de développeurs. Et on a une pseudo-dispute la semaine dernière, parce que le 15 septembre, on a compté, je crois qu'il y avait 7 ou 8 meet-up en parallèle à Toulouse.
Ça m'étonne pas.
Et donc, c'est difficile pour un individu de se couper en 7. Et donc, il y en a beaucoup qui ont dû faire un choix, quoi, et c'est compliqué.
Il y a aussi maintenant beaucoup de lieux qui se montrent justement pour ce genre d'événement communautaire et tout ça. On est dans une entreprise qui s'appelle Equito. On est en train d'enregistrer au Grand Builder. C'est un lieu qui nous prête. Sur lesquels ils prêtent et ils organisent des soirées associatives ou de rencontres justement, soit autour de technologie, soit entrepreneuriale, soit ce qu'on appelle de relations. Il y a maintenant, on a eu une explosion hallucinante quand même d'espaces de coworking. Ça avait commencé avec d'abord une petite expérience chez la cantine, ensuite il y a eu Tau, ensuite il y a Étincelle Coworking. Actuellement, l'Étincelle Coworking, ils ont 4 espaces qui sont en train de se monter. Je crois qu'il y a même maintenant il y a une start-up qui se crée sur le principe de coworker dans un restaurant.
Oui, il y a Frenchwork, une start-up toulousaine.
Bah oui, non, mais c'est le moment d'en profiter de les citer. En fait, j'ai l'impression que ce qui fait que ça explose vraiment, c'est que on n'est plus vraiment seul. On a vraiment la possibilité de se rencontrer IRL. Je ne vais pas dire away from keyboard, c'est plutôt vraiment physiquement. Et la possibilité de travailler ensemble, c'était quelque chose qu'on n'avait pas vraiment avant, justement, de ce côté-là.
Je ne suis pas convaincu que ce soit que ça. Je pense qu'il y a un vrai sursaut générationnel. Tu vois, dans ces coworkings, il y a quand même beaucoup de moins de 35 ans qui cherchent à bosser différemment. Et qui cherchent soit effectivement à monter une start-up, donc peu de moyens, et donc c'est une façon d'avoir des locaux souvent facilement, pas forcément pas cher, mais Pas, facilement, tout simplement, parce qu'il y a pas des, t'as pas un bail de 9 ans à signer.
Ouais, forcément.
Et voilà. Et après, beaucoup de travailleurs indépendants qui, du coup, sont près de ces startups. Et c'est vrai que c'est quand même un milieu, le coworking, qui...
Le coworking, moi, je connaissais. Mais dans un domaine qui était très différent des startups. C'est celui des dessinateurs BD. C'est là où tu avais des ateliers de bande dessinée. Il y en avait 3-4 qui s'étaient montés à Toulouse à la fin des années 90. Donc il y a quelques graphistes effectivement qui connaissaient plus ou moins le principe, mais ça a vraiment été la nouveauté quand tous les indépendants se sont vus. Et par exemple quand je débarquais à Tau et qu'on me disait ah ben un tel est architecte, un tel effectivement bosse avec de très grosses boîtes, un tel est journaliste, il y a vraiment une explosion à partir de là et vraiment un mélange de cultures qui devenait intéressant.
C'est l'état d'esprit qu'il y a derrière. Il y en a un autre coworking un peu amusant qui s'est lancé, il y a Digital Village. Qui est un mix entre le coworking et l'agence. Ils ont des indépendants de plusieurs compétences qui vont travailler une moitié de leur temps pour leurs propres clients et la moitié de le reste du temps pour des clients partagés avec les autres indépendants. Donc on est à la fois sur, et souvent ils travaillent pour les startups, et on est à la fois sur un mode de travail qui est dans l'air du temps, qui change. On a de plus en plus de, c'est aux États-Unis donc je crois qu'il y a un tiers d'indépendants.
Plein de.
Et il y a un peu moins en France, mais donc ça se construit. Et on est à la fois stimulé par le monde des startups, où effectivement il y en a de plus en plus à Toulouse. Et malgré tout, c'est des entreprises qui sont jeunes, qui n'ont pas forcément les moyens de recruter, donc qui travaillent avec des indépendants, qui se rapprochent donc des indépendants, et surtout qui... On est sur une durée de vie qui n'est pas forcément immense pour les startups. Hein. On parle
c'est le principe. Hein. On reste une startup que... Tant qu'on n'a pas de réelle rentabilité et qu'on n'a pas trouvé son modèle.
Et surtout, il y a un gros taux d'échec. C'est vrai qu'on présente toujours les startups par celles qui ont eu du succès, mais pour 10 startups pour une startup qui réussit, il y en a 10 qui ont même pas, qui ont fait une levée de fonds et qui ont plouffé, et au moins une centaine de plus qui ont même pas réussi à lever des fonds. Donc c'est ça aussi. On est sur un milieu assez éphémère. Parce que il faut des moyens, je parlais de motivation au départ, pour arriver jusqu'au bout et combattre tout ce qui va arriver, tous les éléments qui vont venir face à face.
Et tu as trouvé toutes ces places sont remplies, ou il y a besoin de tout le coworking space ou...
Là, ce qui est sûr, c'est qu'il y a, je pense, à Toulouse en tout cas, plus d'espace de coworking que de coworkers pour l'instant. Il y en a beaucoup qui se lancent en se disant qu'il faut être là.
Ouais,
pas forcément. Alors, une bulle dans le sens où il y a beaucoup d'attentes. Il y en a qui pensent que ils se mettent en place le temps que la maturation vraiment du nombre d'indépendants en France explose. Donc, par rapport à ça, ça peut être une bulle dans le sens où s'il n'y a pas d'indépendants dans les quelques années, ils auront des places de coworking qui seront vides. Et après, on a quand même des espaces de coworking qui sont, alors pas des coworking, mais là, comme Equito ici, qui sont des espaces de travail partagé avec un but d'accompagnement. On va retrouver ça ici, donc chez Equito, on va retrouver ça aux starters de la cantine, on va retrouver ça par exemple à Atom, qui est une coloc de start-up qui s'est lancée à mi-chemin entre le coworking et les locaux partagés, ou alors à la Beige, on a l'IoT Valley qui a la passerelle, qui est un lieu comme ça où effectivement un espace où avant d'atteindre les étages supérieurs, parce qu'on a les moyens d'avoir nos propres locaux, on partage un espace avec d'autres startups. Et c'est ça aussi qui est intéressant à Toulouse, et pourquoi quand tu dis qu'on a levé plein de fonds, tant mieux, mais parce qu'il y a un écosystème en fait qui était déjà en place, qui était peut-être mal exploité et qui se structure autour des startups. Malheureusement, c'est un système qui est compliqué parce qu'il y a une maturation des startups à Toulouse qui est encore très jeune, des startups qui ont 5-6 ans et des moyens et de la vue sur 2-3 ans, il n'y en a pas beaucoup. Et donc du coup, c'est vrai que c'est des lieux où il y a beaucoup de passages et des gens qui restent quelques mois.
Ok. On a un lieu, on a des développeurs confirmés, on va parler tout à l'heure de comment trouver les stagiaires, comment trouver les premières clientèles, etc. Mais les start-upers, ça se nourrit et ça se boit. Alors, peux-tu nous donner trois adresses à pizza et trois adresses à bière qui sont intéressantes.
Ça va être compliqué, ça va dépendre de ce que vous
êtes. Tes cantines favorites
de... À Toulouse, on est quand même avant tout une ville étudiante. Donc, c'est difficile.
Ouais, ça, on parlera tout à l'heure des stagiaires, ce qu'on paie mal.
Non, pas à ce sens-là, mais sur le dynamique, la dynamique que ça a apporté en termes de bars et restaurants, des adresses, il y en aura un paquet. Mais je peux te donner l'adresse pour aller faire l'afterwork à pas cher, aussi pour inviter des clients ou pour aller célébrer une levée de fonds avec le reste de l'équipe.
Donc, nous continuons cette émission avec Julien Del Rio, qui est donc consultant innovation et mobilité pour One Light Studio et cofondateur de Loader, qu'on invite parce que tout simplement, Chris et moi avons décidé de monter une start-up.
Bonjour. Je veux demander à propos de l'institution à Toulouse, l'université. Il y a le changement avec les institutions comme l'université pour soutenir les start-ups ou enseigner ou aider ou quelque chose?
Alors, il y a deux écoles. Tu vas avoir l'école des universités qui n'ont toujours pas compris et pour qui l'entrepreneuriat, de toute façon, c'est moche, c'est mal, c'est horrible. Donc, tu vois, c'est des universitaires, ils ont déjà du mal.
Est-ce que tu parles de certaines universités qui sont connues pour leur score manifestant et à leur UFR de 4e international?
Globalement, les universités publiques ont du mal avec l'entrepreneuriat et le monde privé.
Université que je chambre, mais ils ont une très très bonne IUT d'informatique à Blagnac, d'ailleurs.
J'en sors. Je ne peux qu'en dire du bien. typiquement, ouais, les facs ont du mal sur l'entrepreneuriat et ça commence à bouger. Si j'ai bien suivi, il y a la Mêlée qui a signé un accord pour accompagner des étudiants, mais de l'université de je sais plus laquelle. Ce qui bouge le mieux. Ce qui bouge le mieux, il y a les comment ça s'appelle, les entrepreneuriales ou quelque chose comme ça, un programme d'accompagnement d'entrepreneuriat chez les étudiants. Il y a des écoles, c'est plutôt les écoles d'ingé là, qui sont bien positionnées, les écoles de commerce, les écoles de com. C'est bête, hein, mais les écoles privées sont plus à même à former des gens pour aller travailler dans le privé, l'entrepreneuriat, que les écoles publiques.
Et le gouvernement, on a parlé de la French Tech, de le gouvernement national, mais il est le gouvernement de région, l'Occitanie, Toulouse, Haute-Garonne, et tous les officiels parlent de la start-up, de l'énergie, de l'entrepreneur. Tu as remarqué un changement avec le soutien ou ça aide les start-up?
Alors déjà, à Toulouse, c'est compliqué. La région et la ville sont deux bords politiques opposés. Donc ça amène son lot de complications.
Sans compter que maintenant on a aussi donc une communauté de communes et qui fait doublon avec le conseil général, départemental. Enfin, on ne sait plus trop. Quoi.
Une grande région qui en a rassemblé deux. Enfin, c'est complexe, c'est difficile là sur l'aspect politique régional. C'est difficile là avec les derniers changements de dire ce qui a pu vraiment changer. Ce qui est sûr, c'est qu'au niveau de French Tech, du programme national. Au niveau national, c'est un truc qui est plutôt pour de la com internationale. Par contre, l'idée, c'était de permettre de structurer des pôles locaux, dont un French Tech à Toulouse, via donc les French Tech. Et maintenant, il y a un nouveau programme qui vient d'être lancé, plus les thématiques French Tech, je crois que ça s'appelle. Donc, pour des choses beaucoup plus verticales.
On en parlera en troisième partie.
Voilà. Et donc, il y a un soutien quand même des pouvoirs publics, mais malgré tout, c'est fait maladroitement, parce que c'est comme souvent les startups ont des problématiques qui sont très très particulières et si on n'a pas vécu de l'intérieur, on a du mal à se projeter dessus et donc du coup, je pense que pour des politiques, c'est difficile de trouver les bons éléments pour apporter du soutien concret, quoi.
Bon, on a une idée, on a constitué une équipe, on n'a pas encore vraiment les fonds pour parce qu'on se rend compte que finalement les fonds propres ne suffisent pas. Donc qui c'est qu'on va voir en fait pour avoir le fonds de roulement pour aller un petit peu plus loin? On va prendre rendez-vous chez le conseiller bancaire de la Poste?
Alors déjà, il faut savoir que le premier financeur de start-up en France, c'est Pôle emploi. Donc, il y a beaucoup de start-upers.
Non, mais c'est vrai que j'ai pu me lancer en indépendant grâce à eux. On oublie qu'effectivement, quand on vient d'entrer au chômage, on a 2 ans d'indemnité et on y a droit pendant le temps qu'on monte une activité.
Et je ne sais pas si c'est triste à dire ou quoi que ce soit, mais pour en avoir discuté, j'y suis passé il y a 1 an et demi, pour en avoir discuté un peu avec mon conseiller, en interne à Pôle emploi, il préfère suivre quelqu'un avec un projet de start-up que quelqu'un qui veut créer une Xème pizzeria. Parce que
c'est con. Enfin bon, je suis dans une rue où il y a trop de pizzerias, mais il y a plus de chances d'en vendre que.
Ouais, alors il y a plus de chances de succès, mais le succès du coup est beaucoup plus planifiable. Ce qui les intéresse aussi dans la startup, c'est que ta pizzeria.
C'est pas seulement que c'est le nom startup, c'est que.
Potentiellement, ça peut être beaucoup plus gros. Ça peut grossir vraiment si l'idée est bonne, si l'exécution est bonne, ça peut exploser.
Donc ça recrutera plus que des pizzaiolos et des mecs en scooter qui doublent dans les feux rouges pour livrer une calzone.
Et qui sont payés au lance-pierre. On pourra parler du fait que les startups payent aussi les premiers temps au lance-pierre. Mais les startups qui ont les moyens payent bien parce que ils ont besoin de gens de qualité et ils veulent les garder quand ils y sont. Donc voilà, c'est intéressant, on a Pôle emploi.
Tu as remarqué la différence entre les entrepreneurs qui sont au chômage ou les entrepreneurs qui soient soutiennent
Alors moi, typiquement, je suis entrepreneur en temps extra-professionnel. Donc j'ai un boulot le jour et ma start-up, Louder, je la lance avec deux associés le soir et week-end. Donc clairement, il y a une différence entre celui qui est à Pôle emploi et qui peut faire ça sur sa semaine et nous qui le faisons par coup de quelques heures par semaine. C'est beaucoup plus long à lancer. Par chance, on est les seuls à penser que notre idée est bonne. Donc on a pas trop de concurrence. Mais blague à part, il y a une différence entre ceux qui ont un chômage et qui peut leur donner un peu de temps et ceux qui sont soit sur des fonds perso, qui savent qu'ils ont X mois devant eux avant de plus pouvoir se payer à bouffer, et ceux qui, comme moi, le font un peu en dilettante. Donc c'est des profils qui vont être complètement différents, et du coup, en termes de stratégie de trajet pour la start-up, c'est complètement différent aussi. Mm-hmm.
Et c'est la question de risque, le niveau de risque.
Complètement. Le risque n'est pas le même. Moi, dans mon cas, on a décidé, avec mes associés, de ne pas prendre le risque de tout plaquer du jour au lendemain. Et, parce qu'il y a femme et enfant et choses comme ça. Moi, il y a femme, il n'y a pas encore enfant. Mais dans l'équipe, il y a femme et enfant et c'est compliqué. Donc, nous, on prend le moins de risque possible. Mais il y en a qui, effectivement, plaquent tout, savent qu'ils ont... X mois où ils vont cramer tout le cash qu'ils ont mis de côté depuis quelques années, et eux, le niveau de stress et de risque, il est collector, quoi.
C'est vrai que c'est quelque chose qu'on oublie complètement, c'est que quand on lance une activité, vaut mieux avoir une très bonne mutuelle, parce que très vite, c'est le rongeage d'ongles, l'ulcère d'estomac, les descamations et tout le reste, c'est assez éprouvant quand même, hein.
Alors là, je ne veux pas faire de différence entre l'entrepreneuriat normal et l'entrepreneuriat start-up. L'entrepreneuriat start-up...
Ah, c'est la même chose. Hein,
ouais, c'est globalement la même chose. En termes de stress, de toute façon, on a une capacité à absorber le stress ou pas, et puis c'est réglé. Mais chez start-up, en fait, très vite, il y a des choses qui vont graviter autour et qui vont mettre une pression un peu particulière. Ça peut être effectivement la structure d'accompagnement, ça peut être si on a levé des fonds des investisseurs, ça peut être, et qui là en fait vont mettre un relationnel avec son propre projet très très bizarre par rapport à, je reviens sur le pizzaiolo, mais qui lance sa pizzeria et qui en gros rend des comptes parfois un peu à la CCI s'il est dans un programme d'accompagnement, ou sinon à son comptable, et puis c'est tout, quoi. Donc il faut quand même être sacrément blindé déjà pour être entrepreneur, mais start-upper, il faut avoir un goût du risque encore plus au-dessus. Et souvent, d'ailleurs, il y en a plein qui viennent « j'ai une super idée, je veux monter ma start-up » et qui n'ont qu'une image magique du monde des start-up, parce que c'est vrai qu'on fait de la com.
Ou qui arrivent et qui disent « Alors, j'ai une idée, c'est secret, je peux pas en parler. Ça, alors ça, là, ouais, en clair, tu veux monter Facebook. Comment vous l'avez deviné ?»
Ouais, donc ça, on oublie.
C'est pénible. Hein.
Ouais, c'est pénible
au bout du moment.
Et donc, du coup, c'est un des problèmes qu'il y a quand même aussi, où on a beaucoup de gens qui remplissent des zones tampons pour les démarrages de start-up. et qui en fait ont pas cette motivation là à comprendre que ben il y aura on va moi j'ai trop de gens qui... non mais je suis en train de monter un dossier, je vais lever sur mon dossier 300 000 euros, est-ce que tu peux prendre 15 jours de ton temps pour m'aider à faire un cahier des charges complet avec un budget et tout pour que je puisse lever des fonds? Mais mec, tu lèveras jamais des fonds comme ça, quoi. Commence à développer un truc dans ton coin, trouve un développeur avec qui tu
t'entends. On n'arrive pas, on va pas voir les capitaux risqueurs qui mettent de l'argent comme ça.
C'est aux États-Unis. Aux États-Unis, il y a des soirées de pitch. Vous savez que vous venez pitcher une idée et que vous allez repartir avec des tickets qui sont pas quand même monstrueux, mais ça peut être en fonction des trucs de 20 à 150 000 dollars. Mais
c'est pas mal.
C'est déjà très très bien.
Ça t'assure 15 jours de survie pour tes 15 mètres carrés dans la Silicon Valley.
C'est ça. Non, mais c'est surtout que c'est un état d'esprit qui est cohérent avec. Après, il y a un accompagnement des grosses startups vers les petites startups qui m'a l'air plus fort à la Silicon Valley, des rachats, des choses comme ça. En France, on est quand même beaucoup plus dans son coin, même si voilà, il y a des structures d'accompagnement qui se montent. Et donc, du coup, entre autres, le financement, c'est pour, juste sur une idée, il faut arrêter de... Faut arrêter de rêver, quoi. À part si on est, si en fait on est le fils du meilleur pote de Liliane Bettencourt et que on a eu la chance de lui pitcher l'idée la semaine dernière et que elle avait 2 millions d'euros, donc ça fait pas quoi faire.
Moi, je tiens à mettre les pieds dans les plats et à dire quelque chose qui à mon avis va énerver pas mal de monde dans cette pièce quand même au fond, même s'ils écoutent pas trop. On est allé au Startup Weekend. C'est le quatrième lauréat qui ne monte pas sa start-up, au final.
Ça ne sert pas à monter des start-up.
Mais oui, start-up mais c'est, je suis allé à TEDx Capitole, qui était co-organisé par Orange. Même chose, on avait des idées, on avait des pitchs parfaits, mais on n'avait pas des gens qui étaient prêts à les réaliser. Ah, oui, j'ai l'impression que c'est devenu beaucoup un concours de pitch ces derniers temps. Et je ne parle pas que du gâteau immonde au chocolat infect au milieu.
Alors... Moi, j'interviens dans pas mal de concours d'idées, effectivement. Et c'est ce qu'on a essayé avec l'équipe du Startup Weekend de remettre au centre. C'est plutôt l'aspect éducatif autour de qu'est-ce que l'entrepreneuriat, où on va avoir des coachs qui vont plutôt... au final, le pitch, on s'en fiche un peu à l'arrivée. D'ailleurs, il n'y a pas de dotation. Les dotations ne se déclenchent que si les gens déclenchent les projets. Donc, il n'y a pas de dotation en numéraire, il n'y a pas de choses comme ça. Donc, c'est vraiment l'aspect. On a oublié. Moi, j'étais venu à l'organisation du Startup Weekend au départ parce que je pensais que j'allais aider à créer des startups. J'ai compris que ce n'était pas possible. par contre, c'est vrai qu'on retrouve de plus en plus ce problème. Et ça revient au sujet d'avant où les gens croient qu'on va pouvoir lever des fonds sur une idée. Et donc, à partir du moment où ils ont une idée, ils pensent qu'ils vont pouvoir quitter leur boulot et se faire payer par des investisseurs. Non, c'est juste pas possible. Et en fait, le problème de ces concours d'idées, c'est que juste après, les gens découvrent qu'en fait, il faut mettre les mains dans le cambouis, il faut y aller, il faut prendre des risques. Et c'est là où on repart bosser.
Sophie, tu restes avec nous. Oui, on continue à martyriser ce pauvre Julien, qui est donc, je le rappelle, cofondateur de Looders App et qui est consultant innovation et mobilité pour One Light Studio. On parlait tout à l'heure, effectivement, de la French Tech, où il y avait une dizaine de villes qui étaient sélectionnées pour le premier round. Elles ont toutes été renouvelées. On se croirait au temps de l'école des fans. Tout le monde a gagné.
Et puis toutes celles qui ont candidaté dessus, depuis, ont aussi été rajoutées. En fait, il ne faut pas le voir comme un label qui est là pour valider ou pas une qualité d'écosystème ou d'apport. En fait, il faut voir ça plutôt comme un label pour, en tout cas, à Toulouse pour essayer de rassembler des entités qui sont parfois compétitives, enfin en compétition. J'aime bien le terme de faire de la coopération, de la compétition. Voilà, c'est le cas de par exemple les accélérateurs. Qui sont, on va pas se mentir, tous les accélérateurs se battent pour accueillir le plus de startups. Parce qu'il y a des financements à récupérer, des choses comme ça. Et en même temps, ils ont tous un intérêt à être dans la French Tech parce que ça peut rendre, en tout cas la French Tech Toulouse, ça peut rendre l'écosystème plus visible. On n'y arrive pas, honnêtement, c'est compliqué, mais c'est dans la vie de tous les jours, c'est un peu pareil.
Est-ce que finalement, on aurait pu continuer sans la French Tech? Est-ce que la vague, justement, de création d'entités autour de l'innovation et tout ça permettait de s'en passer?
C'est même pas ça, en fait. C'est pas la question. Il y a plein de choses dont on peut se passer. En fait, je le vois plutôt comme qu'est-ce que la French Tech a rajouté. Parce que je pense que ça a rien enlevé. L'idée, c'est que comme ça a rien enlevé, que dans le cadre de Toulouse, ça coûte le temps que les gens y investissent un peu. Alors depuis, il y a un poste qui est financé par Toulouse Métropole. Il y a quelques fonds qui ont été débloqués pour de la com et des choses comme ça. Mais à Toulouse, c'est plus de l'investissement des personnes qui y participent. Donc ça coûte pas grand-chose. Maintenant, la question, c'est qu'est-ce que ça a apporté ? De la com, il y a des choses concrètes parce qu'il y a des délégations locales d'action nationale, le Pass French Tech, le French Tech Ticket, des choses comme ça. Les délégations locales sont décisionnaires sur quelles startups rentrent dans les programmes de financement ou pas. Après, voilà, on est quand même sur un écosystème à Toulouse qui était déjà, qui était dans les premières labellisations, qui était considéré comme un des écosystèmes qui était le plus structuré avant French Tech. Et le problème, c'est qu'il fallait mettre tout le monde sous le même drapeau.
Oui, parce qu'il y avait pas mal de parties qui étaient concurrentes. Ouais. Ensuite, maintenant, donc il y a cette idée de French Tech où on va spécialiser les villes. Et moi, il y a un truc.
C'est en parallèle.
Mais justement, on dit bien que la French Tech Toulouse va être plus spécialisée IoT. Moi, je comprends pas. Il y a Morning, par exemple, qui est une start-up autour de la banque qui est en train d'exploser. Il y a quand même. Est-ce qu'on n'est pas en train de spécialiser malgré tout ?
Si je puis me permettre, je suis pas sûre qu'en fait French Tech Toulouse soit spécialisée IoT. Il y a l'IoT Valley et le projet porté par Ludovic Lemohan qui est clairement branché IoT. Le reste de la French Tech n'est pas forcément branché IoT. Après, si tu parles des réseaux thématiques qui ont été du coup auxquels Toulouse participe, il n'y a pas FinTech effectivement, alors qu'on a Morning. Je pense pas que ce soit forcément une catastrophe pour Morning, qu'il n'y ait pas de réseau thématique FinTech.
Je crois même qu'ils font le pari de s'en moquer, puisqu'ils ont monté leur campus à 50 km de Toulouse.
Et puis on a quand même 5 réseaux thématiques sur 9, donc en fait Toulouse est quand même bien présente sur ces réseaux thématiques, qui ont quand même pour but finalement de faire... Julien, tu m'arrêtes si je me trompe, mais de faire travailler finalement des entreprises de toute la France sur des secteurs porteurs et donc de faire émerger des leaders.
C'est exactement ce que j'allais dire. Là où French Tech, les métropoles French Tech sont là pour faire de la cohésion locale, en fait, les réseaux thématiques sont là pour mettre de la visibilité verticale à l'international. Donc, encore une fois, il faut le voir comme qu'est-ce que ça apporte plutôt que. Et ça enlève rien. Et effectivement, il y a des startups pour qui ça n'apportera rien parce que dans le cadre de leur ville à elle, bah, elles passent hors des mailles de ce qui a été décidé. Mais bon, c'est un peu la vie.
Chris, je te laisse poser la dernière question pour le coup.
Oui, comme j'avais parlé avec les investisseurs dans les États-Unis, il me dit que le terme French Tech est devenu trop vague pour cette idée rien. C'est juste il a voulu se voir. Quel est le point fort pour France, la France, mais n'importe quelle vie, mais elle va savoir c'est l'intelligence artificielle, l'IoT, quelque chose pour...
Alors, le problème, c'est que la French Tech, c'est pas un label, c'est pas agriculture bio, il y a un cahier des charges à respecter pour avoir le tampon agriculture bio. C'est une marque qui est censée, à la base, montrer le savoir-faire français de façon internationale et l'innovation à la française. Moi, il y a sur le French Tech, alors, plus sur une vue, pas investisseur américain, mais tout simplement sur une vue consommateur. Il y a un truc que j'aime bien, c'est, désolé si je mentionne la marque, mais les réseaux de boutiques boulangers qui vendent des produits French Tech. En fait, c'est juste des startups qui sont, c'est des produits au milieu des étals, et puis de temps en temps, on sait que ça, c'est une startup et c'est pas un gros mastodon.
Et c'est un référencement privilégié. Hein,
ouais, c'est plus, ça. Ouais. C'est ça. C'est un programme qui coûte pas grand-chose, qui rapporte un peu de visibilité à ceux qui sont derrière, qui sont des startups, et ça rentre effectivement dans la marque French Tech qui n'a pas de cadre particulier. Donc effectivement, il y a des fois où pour des gens ça peut paraître un peu flou, mais encore une fois, je pense que ça apporte quand même à pas mal de choses. Et les fois où c'est flou, ben, c'est pas grave, ça passe hors des mailles du filet, quoi.
Et puis peut-être que ça a popularisé les aquariums à spiruline ou encore, que sais-je, des bracelets-montres Wi-Fi, on ne sait pas.
Ça serait marrant.
Julien, merci beaucoup. Sophie, merci beaucoup.